Le paddock RMC, Kylian Verhove.
Salut à tous, bienvenue dans votre warm-up du Grand Prix d'Autriche, 8e manche du championnat du monde de Formule 1 cette semaine. Direction le Red Bull Ring, un circuit court, rapide, spectaculaire. Et surtout le théâtre d'un week-end qui pourrait peser lourd dans la suite de la saison. Et forcément, qui dit Autriche dit Red Bull. On va s'intéresser à cette écurie qui joue gros à domicile. Pourquoi ? Parce qu'elle arrive avec un important package d'évolution. On va évidemment vous développer tout ça dans cet épisode. En tout cas, tout est mis en œuvre pour tenter de relancer un tant soit peu cette saison qui d'ailleurs, pour l'instant, est loin des standards habituels. Et puis on se posera pas mal de questions. Est-ce que ces nouveautés peuvent remettre Max Verstappen dans la course aux victoires ? Est-ce que Red Bull est déjà en train de passer à côté de son championnat ? Ou encore, est-ce qu'Isaac Hadjar a déjà mis tout le monde d'accord en tant que numéro 2 ? On parlera également de Ferrari. Contrairement à une grande majorité des fans, aucun emballement après la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone. Frédéric Vasseur a tenu à calmer les ardeurs autour du septuple champion du monde. Et puis, il y a un mystère, un lourd mystère qui intrigue tout le paddock. On va lancer un avis de recherche. Où est passé Oscar Piastri, dominé ces dernières semaines par Lando Norris ? L'Australien traverse-t-il simplement une mauvaise passe ou faut-il s'inquiéter pour ses ambitions à plus long terme ? Pour évoquer tous ces sujets avec moi aujourd'hui, Nicolas, Paul Orsi et Tristan Van Dendrich. Salut messieurs.
Salut les copains, salut à tous.
Salut.
Tout va bien messieurs, pas trop chaud ?
Ah, il fait chaud là. Ah, il fait chaud. Moins que les pilotes, peut-être moins que les pilotes dans leur monoplace, mais il fait chaud quand même.
Ouais, je me prépare pour le week-end à Spielberg qui va être de la même température.
Ouais, je me doute. Moi, j'ai fait 10 minutes de tram pour venir au boulot. J'étais en transe, en sueur totale. Alors, j'imagine pas ce que ça doit donner dans une monoplace pendant 1h30, 2h. Je pense que ça va être la folie ce week-end à Spielberg.
Bah, c'est Singapour, mais dans la vraie vie pour nous maintenant. Donc, mais il faut juste rajouter, faut rajouter encore 20 degrés à la température actuelle et vous avez à peu près l'estimation de ce que les pilotes ressentent à Singapour.
Bon, écoute, on va pas se plaindre. Nous, on a la clim ici en studio à RMC. Donc, tout va bien. Avant de commencer, petit rappel, si vous voulez suivre évidemment toute l'actualité de la Formule 1, abonnez-vous au compte Instagram du paddock RMC. Bientôt 20 000 abonnés juste avant ce Grand Prix d'Autriche. Et bien sûr, abonnez-vous aussi à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Activez la cloche, laissez-nous des commentaires, ça nous aide évidemment. Le Grand Prix d'Autriche, les enjeux du week-end et les débats qui agitent le paddock, c'est parti pour ce warm-up. On ne change pas les bonnes habitudes, je vais vous donner déjà le programme du week-end qui s'annonce. La F1 est branchée à l'heure européenne depuis quelques Grands Prix, donc on garde les horaires des derniers. Première séance d'essai libre vendredi à 13h30, la deuxième à 17h, la troisième ce sera samedi à 12h30 et puis on enchaînera avec les qualifs à 16h et enfin la course ce sera dimanche à 15h, à suivre évidemment sur RMC, je le répète, avec Jean-Luc Roy aux commentaires. Messieurs, j'ai évidemment envie de commencer par le point crucial qu'on a déjà commencé à évoquer, ça n'a échappé à personne. Il fait une chaleur monstre, il fait atrocement chaud et l'Autriche ne passe pas à côté de la canicule. La FIA a d'ailleurs officialisé et déclenché une alerte risque liée à cette chaleur. Tristan, est-ce que tu peux nous développer un petit peu en quoi ça consiste cette alerte chaleur ?
Eh ben, c'est mis en place depuis quelques années, enfin l'année dernière plus précisément, notamment depuis les Grands Prix du Qatar qui ont souvent été très chauds et où on a vu des pilotes râler. Et ça va donc obliger les équipes à installer leur système de refroidissement. On va donc passer d'un poids minimal de 768 kg à 773 kg et qui devrait donc permettre aux pilotes d'avoir le système de refroidissement. On voit souvent ces gilets désormais de plus en plus, vous savez, avec des petits, comme si c'était des vaisseaux sanguins tout autour du torse et du dos des pilotes et qui leur permet de baisser un tout petit peu la température, même si c'est clairement pas quelque chose que tous les pilotes aiment bien. Il y en a beaucoup qui sont contre ce système, mais c'est obligé et puis il va bien falloir s'hydrater à la fin de la course.
Puis on rappelle que le seuil retenu pour déclencher cette alerte chaleur, c'est 31 degrés. On annonce entre 35, voire même des pics à 40 degrés sur le Red Bull Ring ce week-end. Rappelons juste pour compléter que ce système de veste n'est pas entre guillemets obligatoire. Les pilotes peuvent refuser cette veste et en cas de refus, ils seront équipés d'un lest du poids de la veste pour respecter l'équité sportive, Nico.
Ouais, c'est exactement ça, parce que Tristan l'a dit, les pilotes, franchement, ils ne sont pas tous fans de ce dispositif. Donc, il y en a plein qui font le choix de courir sans, avec les risques qu'il y a derrière de surchauffe à l'intérieur du baquet. Mais il y en a beaucoup qui font ce choix-là. Et pour compenser ce poids additionnel qui est ajouté dans la monoplace, et ben on force les pilotes qui ne veulent pas utiliser ce dispositif à se lester. Je crois que c'est autour de 5 kilos. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est quelque chose de contraignant en plus à gérer pour les pilotes ce week-end.
Mais pas
tu
mal
disais,
de
40 degrés en l'air sur la piste, à mon avis, tu vas tutoyer les 50 degrés, ça va être franchement, ça va être une catastrophe.
Et c'est un week-end complet où on a aussi F2 et F3, donc ça va rouler toute la journée. Donc ouais. La piste, elle va être bouillante dimanche après-midi. Ouais.
Quelles incidences ça a ? C'est la première fois qu'on a, entre guillemets, des chaleurs extrêmes comme ça cette saison. Quelles incidences ça peut avoir sur la course, sur les pilotes, sur les monoplaces, sur les trains de pneus ? Ça va vraiment impacter cette course tout entière, Tristan ?
On l'a déjà vu un peu à Barcelone. Alors, Spielberg est un circuit qui utilise un petit peu moins le pneumatique par rapport à Barcelone, où on a vraiment des... vous avez le tarmac, vous avez vraiment les grains de tarmac qui sont très écartés à Barcelone et qu'ils sont déjà un peu moins à Spielberg. La piste est moins abrasive, comme on dit. Mais on va peut-être avoir une course avec plus de changements de pneumatique, refroidir les moteurs, ce qui récemment a souvent été une problématique, surtout depuis 2022, ça va être plus compliqué. Et même si ce n'est pas le Mexique, ça reste une course en montagne. On est à 700 mètres d'altitude, on a 60 mètres de dénivelé à peu près sur le circuit. Donc on respire moins bien, on refroidit moins les freins, on refroidit moins le bloc moteur, etc. Donc les mécaniciens, les pilotes, les ingénieurs même qui sont sur la piste, ils vont avoir chaud, et encore plus les monoplaces qui vont devoir résister à ces chaleurs. Et vu qu'on a pas mal de casse mécanique quand même depuis le début de la saison, il faudra faire attention à pas casser la voiture, et je pense notamment à Cadillac qui avait dû retirer ses voitures également pour des problèmes de frein.
Nico, est-ce que c'est la chaleur qui sera l'adversaire numéro 1 des pilotes, voire des écuries ce week-end?
Oui, probablement. Alors même si on a vu qu'en Catalogne, ça avait chauffé déjà très fort, et on a vu que Ferrari et Lewis Hamilton avaient parfaitement géré cette température, cette dégradation des pneus qui va être un facteur ultra important en Autriche. Bien évidemment que c'est souvent ce qui fait la différence, cette dégradation des pneumatiques. Donc ça va être le facteur principal. Tu as aussi tout ce qui est refroidissement des groupes propulseurs, des moteurs, et puis bien évidemment la gestion physique aussi des pilotes, même si on sait que ce sont des athlètes et qu'ils sont prêts. On a déjà vu des pilotes extrêmement marqués, hein, surtout sur ces premières grosses chaleurs dans une saison. Mais je pense que le facteur X de cette course, ça sera clairement la maîtrise de la dégradation des pneus avec cette température.
Un mot plus globalement de ce circuit qui est, je l'ai dit, un des plus spectaculaires et les plus rapides de la saison. Quelles sont les clés spécifiques à retenir du week-end qui nous attend, tout simplement, Nico ?
Circuit où c'est vraiment la vitesse qui fait la différence, hein. Je crois que c'est le plus petit total de virages de la saison.
Il y a
à peine
10
virages, il y a trois grosses zones de vitesse pure, franche. Donc ça va être vraiment un circuit où on va aller très 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 vite. C'est ça un peu la spécificité de ce Red Bull Ring.
Christian ?
Une autre spécificité, c'est, j'ai regardé un petit peu côté statistique, il y a quand même 75% de victoires qui viennent de la première ligne. Donc signer la pole position à Spielberg donne quand même un certain avantage, mais il y a quand même 50% des victoires qui sont marquées depuis la première position. Donc vous avez une chance sur deux de gagner quand vous partez premier dimanche. Ça veut dire que la pole position que vous obtenez le samedi ne veut absolument pas dire que vous remporterez le Grand Prix le dimanche. Et puis d'un côté un peu plus personnel, moi c'est un circuit que j'adore absolument tous les ans le voir, parce que vous aurez probablement de toute la saison les écarts les plus serrés. C'est un circuit qui est hyper connu des pilotes à partir de la F4, donc ils roulent absolument tous sur ce circuit depuis qu'ils ont 12 ans, ils connaissent chaque recoin, et le circuit est tellement court et il y a tellement peu d'opportunités de faire la différence, j'ai envie de dire, que vous risquerez d'avoir les écarts les plus petits. Ce ne sera clairement pas les écarts les plus petits de l'histoire de la Formule 1, parce qu'il y a encore des équipes qui ont des gros différentiels de vitesse. Mais je pense que la qualification le samedi va vraiment être intense. Et sur les deux virages qui sont les plus durs, ce sont vraiment le 9 et le 10, où si vous vous ratez, vous ratez votre fin de tour, et vous ratez surtout votre début de tour. Et avec beaucoup d'histoires de track limit aussi sur cette piste en Autriche, donc ce sera à surveiller, c'est des points importants sur ce circuit.
Nico, c'est un Grand Prix que tu affectionnes également ?
Ouais, complètement. C'est un circuit que j'adore moi aussi. C'est un circuit qui est ultra spectaculaire. Tristan l'a dit, là, les faibles écarts à chaque fois, ça rend cette course assez passionnante. Tiens, petite stat, Verstappen a signé 5 fois la pole position en Autriche. Il est vraiment à la maison. Il n'y a qu'en 2025 où Lando Norris a réussi à lui prendre la pole, mais depuis 2021 c'est 100% max, hormis Norris l'an dernier. Donc voilà, il est chez lui, il est à la maison, et puis on va y revenir. On sait que Red Bull a envie d'être performant dès ce week-end. Donc franchement, c'est un circuit qui est apprécié par les pilotes, c'est un circuit qui est apprécié par le public. Il y a tout ce cérémonial qui est mis en place autour de Red Bull. Je ne sais pas si vous avez vu un peu là, mais ils nous ont fait la présentation du circuit dans un avion de Voltige. Vous savez qu'ils sont super présents en Voltige aérienne, Red Bull. où on a suivi un petit peu via cet avion la présentation du circuit. Bon, c'est une date qui est très cool sur le calendrier avant de débuter l'été, cette course en Autriche.
Nico, on dirait que tu fais ce métier tout le temps. En fait, tu m'as lancé une excellente passe décisive. Je me demande.
Il est flatteur, celui-là.
Comment tu fais, toi qui n'as pas l'habitude de faire le métier d'encoreman. C'est très fort. Bravo. Du coup, on va enchaîner sur Red Bull et Max Verstappen, justement. Red Bull qui va évoluer à domicile. Donc, et pour l'occasion, l'écurie autrichienne va présenter tout un package d'améliorations majeures. La course au développement, on le sait, elle continue et on voit à quel point elle impacte énormément les résultats et les évolutions des différentes monoplaces. Déjà, est-ce que vous pouvez me donner les différentes améliorations qui sont attendues du côté de chez Red Bull, Nico ?
Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Alors, on ne sait pas également, Tristan, tu me dis si je me plante, mais on ne connaît pas exactement les pièces, les améliorations qui vont être apportées, mais on sait que le package, il est important. Ce qu'on sait, c'est que Red Bull veut absolument réduire l'écart avec ce qui se passe, que Laurent Mekies dit que ça ne va pas forcément inverser le rapport de force avec les autres, mais que là, en fait, du côté de Red Bull, on penche sur un écart avec Mercedes, avec McLaren ou Ferrari, situé à peu près à 4 dixièmes, et qu'on espère réduire drastiquement cet écart-là. Que depuis l'après-Japon, Red Bull et Laurent Mekies disent qu'ils sont vraiment en train de réduire l'écart avec ce qui se passe devant eux. Donc ce package-là qui va comprendre un petit peu de choses, hein, il y aura de l'aéro, enfin il y aura pas mal de trucs dans ce package. On sait que Red Bull n'a pas le droit de toucher à son moteur parce qu'ils ont été élus meilleur moteur, du coup désigné meilleur moteur, c'est pas une élection, mais voilà. Donc en tout cas, il y a plein de petites choses qui vont changer sur la voiture avec l'ajout de nouvelles pièces. Ça sera pas les dernières évolutions de la saison, mais il y a pas mal de trucs qui vont bouger, ouais.
On a eu un premier package pour Red Bull à Miami, qui a été un package vraiment très aéro. On a beaucoup travaillé sur les pontons de la voiture, sur l'aileron arrière aussi, le fameux Macarena. J'adore que Frédéric Vasseur ait donné le nom Macarena et que désormais tout le monde utilise le mot Macarena pour cet aileron. Non, sur Red Bull, ça va vraiment être un gain de poids. Laurent Mekies l'a clairement dit en Espagne, il faut faire maigrir la voiture et ça va être l'élément majeur des améliorations qu'ils vont ramener. C'est le gain de poids. Est-ce que Red Bull sera au seuil minimal imposé par la FIA, qui est donc en règle générale de 768 kg ? On ne sait pas encore, mais en tout cas, c'est leur objectif de vraiment se rapprocher de ça, parce que depuis le début de la saison, la voiture a un équilibre très compliqué. Isaac Hadjar, Max Verstappen se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de constance dans cette voiture. Et ça va être un bon exercice aussi ce week-end parce que ils ont un gros problème de dégradation des pneus, pardon. Ça s'est vu énormément en Espagne. Ils étaient vraiment en souffrance. Et on espère que ce week-end pour Red Bull, on va améliorer certaines choses qui vont permettre de mieux lire stratégiquement comment la voiture utilise ses pneus et qui va aussi permettre aux pilotes de mieux pouvoir chérir ses pneus Pirelli. Qui vont sûrement souffrir un petit peu ce week-end.
Justement, est-ce que ça peut suffire ? Est-ce qu'on peut vraiment espérer de Red Bull ce week-end qu'il se rapproche de Mercedes ou de Ferrari ? Ou est-ce que ce package s'annonce peut-être insuffisant au vu des conditions qui nous attendent ce week-end, Nico ?
Je sais pas. Alors pour confirmer et pour développer ce que disait Tristan, c'est vrai qu'il y a pas mal de sources là qui fuient du paddock où ils disent qu'ils se sont rapprochés du poids minimum, ouais. Alors que la voiture était clairement en surpoids. Est-ce que ça va te permettre de réduire drastiquement l'écart qu'il y avait sur Mercedes ? Très honnêtement, j'en suis pas sûr. Est-ce que ça va te permettre de matcher pour des podiums dès ce week-end ? Je pense que oui. Moi, personnellement, j'ai mis Verstappen sur le podium. Je crois même que je l'ai mis vainqueur, mais je me suis un peu chauffé. Mais je le vois, sur le podium. Ouais, je me suis un peu chauffé. Mais je pense que sur ce circuit-là, avec l'expérience de Verstappen et les améliorations sur la voiture, ça peut faire la différence. Après, c'est toujours pareil, hein, faut voir comment la voiture et les pilotes réagissent à ces évolutions. Il va y avoir du temps pour développer un peu la voiture sur le week-end, mais ça peut aller très vite. Donc, est-ce que dès l'Autriche, on va avoir une Red Bull compétitive et un Verstappen qui retrouve des ambitions de podium, voire de victoire ? Franchement, j'en suis pas sûr.
J'ai l'impression que Tristan non plus, d'ailleurs.
Ouais, non, je pense pas. Je pense que là, pour l'instant, chez Red Bull, on essaye de... vous savez, on est dans vraiment les débuts du développement de cette génération de monoplaces. Il faut trouver une base saine. C'est ce que Red Bull est en train d'essayer de faire. En fait, il y a des points qui sont importants à améliorer avant d'améliorer les autres. Le poids est toujours le facteur, en tout cas l'un des plus importants au début d'une réglementation Une nouvelle réglementation, c'est un des points les plus importants. Avoir une voiture au poids minimum, c'est vraiment la base. Donc là, ce que Red Bull essaye de faire, c'est ça. Après, s'ils améliorent aussi au niveau de l'aéro certaines choses, et s'ils peuvent améliorer ces petits points aérodynamiques sur la voiture qui permettent de mieux lire, enfin que les pilotes puissent mieux lire celle-ci, et bah, ça leur permettra de se rapprocher. Mais pour l'instant, il y a vraiment pour moi un step entre... Même Mercedes est toujours devant, à mon goût, même en termes d'exploitation de leur voiture. Il y a toujours un step, à mon avis, à la fin du week-end. Encore une fois, c'est un week-end exceptionnel, c'est un circuit exceptionnel. Ce n'est pas un circuit comme Barcelone qui est très académique, où on peut vraiment lire les performances des voitures. Donc peut-être que Red Bull peut nous sortir une petite performance qui fera plaisir. Ce qui est important aussi à noter, c'est que Eric Van Aren, qui est le journaliste vraiment très spécialiste de Max Verstappen et Red Bull, estime que ces améliorations ont aussi un objectif de garder Max Verstappen au sein du giron Red Bull. Hein. L'objectif aussi de Red Bull ce week-end, c'est de montrer que ils améliorent des choses, ils travaillent sur la voiture et leur objectif, c'est d'aller de l'avant. Hein. C'est vraiment pas de garder la monoplace qu'ils ont actuellement. Donc il y a un double enjeu ce week-end. Il y a un enjeu de rattraper un peu la meute de devant, même si au final ils n'étaient pas si loin parce qu'ils sont toujours bien débrouillés pour être dans les bons coups et que au final Verstappen termine quatrième à Barcelone. Alors oui, grâce à l'abandon de Kimi Antonelli et de Charles Leclerc. L'objectif là, c'est surtout reséduire Max Verstappen et essayer de combler l'écart plutôt que de dépasser Mercedes et Ferrari.
Après, j'ai quand même l'impression, en vous écoutant, messieurs, que Red Bull part de beaucoup trop loin pour pouvoir rivaliser avec les écuries qui se sont montrées à leur avantage dans ce début de saison. Nico.
Beaucoup trop loin. Red Bull part de plus loin, en fait. Quand tu vois qu'au championnat du monde, Verstappen est seulement 7e, Hadjar 9e, qu'il y a une Alpine qui a intercalé entre les deux voitures, oui, Red Bull part de plus loin. Est-ce que c'est... En fait, j'ai du mal avec ces premières générations de monoplaces, comme le disait Tristan, à voir et à me pronostiquer ou à me prononcer sur à quel point les équipes vont être capables de faire évoluer leur voiture.
Parce que tout peut changer d'un week-end sur l'autre.
J'ai du mal à savoir ça. On pensait que l'écart pouvait se réduire, mais au final, Mercedes reste dominante. Et même si ce n'est pas de loin, mais en tout cas, ils ont quand même une grosse longueur d'avance. Tu restes, t'es quand même sur la 8e manche du championnat. Et on rappelle que les équipes ont eu une période de un mois pour bosser à l'usine pour essayer de combler leur retard avec les deux Grands Prix qui ont été reportés suite à la guerre en Iran, donc tu vois, et malgré ça, les écarts sont pas comblés. Donc j'ai envie de te dire qu'Hamilton il peut être champion du monde, que Verstappen va gagner des courses et que Pierre Gasly aussi, si Alpine bosse bien, va aller mettre le museau de l'Alpine sur le podium tous les week-ends. Mais j'ai du mal à y croire, quoi.
Et ils sont en train de se faire avoir par la FIA aussi, par Mercedes qui a très bien joué le coup. C'est-à-dire qu'ils ont beau améliorer aérodynamiquement leur voiture. Il y a Ferrari et Mercedes qui vont avoir des upgrades moteurs pour l'instant. Donc il va falloir aussi compenser, il va falloir doublement compenser, entre guillemets, un rapprochement de Ferrari et Mercedes qui étaient actuellement meilleurs sur le châssis et sur l'aérodynamique de leur voiture. En tout cas, la référence châssis cette saison semble être Ferrari quand même, parce que sur des circuits à faible vitesse où il faut vraiment un excellent châssis, un excellent grip mécanique aussi, ils avaient l'air d'être très forts. Mercedes semblait être les meilleurs justement en aéro et en gestion des dégradations des pneus. Red Bull, c'est les meilleurs niveau moteur, mais c'est le seul endroit où la FIA a dit hop, attendez, on va essayer de faire en sorte que tout le monde se rapproche au niveau du moteur. Donc ils vont devoir doublement compenser, donc c'est ça aussi qui me fait un peu peur pour l'équipe autrichienne.
Mais en ayant conscience de tous ces ingrédients là et de toutes ces inconnues là aussi, est-ce qu'on peut affirmer ou non que Red Bull passe à côté de sa saison?
Moi, je trouve ça dur de dire qu'ils passent à côté de leur saison. C'est une nouvelle année. Ils ont été en difficulté déjà l'année dernière. Ils ont perdu des têtes pensantes tout au long des deux dernières années. C'est une période de reconstruction. L'équipe renaît un peu de ses cendres. La question qui est centrale un peu pour eux, c'est savoir s'ils peuvent compter aussi sur Max Verstappen pour le développement de leur voiture sur les années.
Ouais, on va y venir.
Sur les prochaines années. Et je pense que c'est surtout ça la première question qui se pose, parce qu'ils vont travailler et aucun doute qu'ils vont arriver avec des solutions déjà sur le reste de la saison, mais aussi sur les années prochaines.
Nico, juste avant d'enchaîner sur Max Verstappen, il y a Helmut Marko qui a quand même déclaré qu'il avait peur pour l'avenir de Red Bull. Est-ce que selon toi,
il parle encore Helmut?
Il parle. Il a dit qu'il suivait plus beaucoup la F1. On a du mal à le croire, mais il a tendance à faire pas mal d'interviews encore. Est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Ou est-ce que, comme le dit Tristan, il y a une base à construire et tout ira mieux dans les années prochaines si, et seulement si peut-être, Max Verstappen reste dans cette écurie?
Non, mais moi, je suis pas inquiet pour Red Bull et pour la marque. La seule inquiétude que j'ai, c'est si Max Verstappen quitte Red Bull. Là, on en rediscutera. Et en effet, le projet, c'est plus le même. Mais on voit bien qu'en Formule 1, tu peux pas être performant pendant 15 ans d'affilée avec des changements de réglementation. Où était Mercedes sur la précédente réglementation pendant 2-3 ans, tu vois? C'était pas en capacité de jouer le titre. Là, ils sont ultra dominants. McLaren, c'est un peu plus compliqué pour eux cette saison, alors que ça a dominé l'an dernier. C'est comme ça. Il y a aussi des règlements qui font que les équipes qui sont derrière ont plus de temps de développement que celles qui dominent. Tout est fait pour essayer de niveler le niveau. Red Bull a été aux avant-postes pendant très très longtemps. Et Tristan l'a dit, il y a une fuite des talents chez Red Bull depuis un ou deux ans. Tu as plein de gars avec bien sûr en tête de file Adrian Newey, mais qui ont contribué à développer ce monstre qui est Red Bull, qui ont quitté le navire petit à petit, qui sont allés bosser dans d'autres écuries. Donc il faut se reconstruire. Moi je pense que si Verstappen reste en capitaine de navire, que tu as un truc qui se consolide autour de Laurent Mekies qui me semble taillé pour le poste et qui bosse bien, et on voit les améliorations avec lui, et que tu as un vrai numéro 2 comme Isaac Jars qui est en train de se produire, je vois pas pourquoi l'écurie retrouverait pas ses moyens et la capacité de jouer des victoires et dans une saison voire deux de redevenir prétendante au titre mondial. Ça me paraît complètement probable.
Tristan, on l'a entendu, Nico est tellement enthousiaste que Max Verstappen va selon lui remporter ce Grand Prix d'Autriche. Selon toi, qu'est-ce
j'ai dit que je m'étais chauffé quand même, les gars.
Oui, non, mais toi, t'as tellement de points à rattraper au classement des pronos que tu t'es
dit. Mais ça, on en reparlera en fin de podcast, les gars. Des fois, faut miser gros. Là, j'ai tenté un coup.
Ça, c'est du beau teasing, encore une fois. Bravo, mon Nico. Tristan, toi, qu'est-ce que tu imagines, envisages pour la fin de saison de Verstappen? Est-ce que il peut aller gratter plus que ce qu'il n'a gratté sur ce début de saison, ou est-ce que il va rester entre guillemets dans ce marasme de la 4, 5, 6e place?
On peut compter sur Max Verstappen pour trouver des solutions et aller nous chercher une victoire. Moi, ça, j'en doute pas, parce qu'il va se mettre à un moment dans une situation qui va faire qu'il va tellement construire son week-end de la bonne façon que même s'il n'a pas la meilleure voiture, il trouvera le moyen de s'imposer. Je ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est que depuis le début de la saison, j'ai l'impression que Max Verstappen n'existe plus dans les médias. Et donc, je trouve ça très drôle, parce qu'il y a encore... ça faisait 3 ans qu'on n'entendait que lui. Et aujourd'hui...
On l'a quand même beaucoup entendu au début de saison. Quand il fallait râler sur la nouvelle réglementation.
Mais parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de moulins à moudre. Enfin, de grains à moudre, pardon. Parce qu'on ne savait pas trop encore ce qui se passait. Là, aujourd'hui, tout le monde est braqué sur Kimi Antonelli. Depuis un Grand Prix, tout le monde est braqué sur Lewis Hamilton. Tout le monde se dit, ça y est, le rêve rouge, c'est bon. En fait, il fait son petit bonhomme de chemin. Et je pense qu'il va construire sa saison comme il sait la construire. Il développe la voiture, je pense, tranquillement de son côté. À voir si Isaac Hadjar fait aussi partie du développement de la Red Bull comme il devrait faire partie du développement de la Red Bull. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'écoute vraiment ou est-ce qu'on écoute que Max Verstappen? Ça, c'est aussi une question. On a du mal à savoir. Et on aimerait bien, en tant que Français, savoir si Isaac Hadjar a le droit de donner ses petites directives ou pas. Après, honnêtement, là maintenant, je ne le vois pas partir de chez Red Bull, chez qui, pareil, je ne comprendrais pas par où il pourrait partir, sauf s'il y a vraiment une opportunité exceptionnelle. Donc moi, je le vois bien continuer chez Red Bull, construire sa saison, et puis ouais, pourquoi pas, une petite victoire ce week-end au Red Bull Ring. Mais ça ferait sens devant. En plus, il va retrouver tous ses fans. Ça fait tellement, ça fait quoi depuis Zandvoort l'année dernière qu'il a pas roulé devant autant de personnes en orange, donc ça va être nickel.
Nico ?
Moi, j'ai tellement hâte, les gars, qu'il gagne, qu'il redonne un petit peu son avis en conférence de presse, si on vient le chatouiller sur son potentiel, sur
sa
motivation.
C'est ça qui manque, moi.
Moi, je veux entendre du Verstappen en conférence de presse. Je veux retrouver le Max piquant avec du second degré.
Ah oui.
Je me suis mis à développer de l'amour, du kiff total pour Max Verstappen. J'aurais... J'ai toujours admiré le pilote, son talent, mais la personnalité du gars me manque. Là, tu vois, moi j'étais présent sur le Grand Prix de Monaco. Quand tu le vois à peine passer en presse 2 secondes parce qu'il a dû abandonner, parce qu'il n'est pas à sa place, quoi. Et on a envie de le voir gagner. Moi, je pense qu'il va rester chez Red Bull aussi. Je suis totalement d'accord avec Tristan. C'est un super champion. Je suis à peu près sûr qu'il va gagner des courses. Je pense qu'il peut aussi en aller en chercher une, voire plusieurs dès cette saison. Et que dès qu'il y aura le moindre concours de circonstances qui peut lui profiter, il sera là. Verstappen, sauf s'il y a une défaillance de la machine. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir Verstappen remonter sur la première marche. C'est fou de dire ça hein, quand on a vécu des saisons où on était lassé tous les week-ends
Par sa
de
domination.
commenter des victoires de
Bien sûr.
Verstappen et de sa domination. Là, tu vois, on en est à se dire, mais Max, vas-y, regagne des courses. Ça va vite, les fins.
On est jamais trop sympa avec les pilotes qui gagnent beaucoup, en général, en
C'est
F1.
vrai.
Et après, une fois qu'il
Ouais.
ne gagne plus, bon, revenez vite quand même. Hein.
Il suffit de voir à quel point tout le monde est fan de Max Verstappen aujourd'hui, alors qu'à une époque, vraiment, c'était impossible de supporter cette
Bien
personne
sûr.
sans se faire cracher dessus dans la rue
Ah
quand
mais dans l'évolution du gars, j'étais passé de mec le plus
même.
détesté, je pense, de l'histoire,
Maintenant, tout le
à
monde veut
peut-être
qu'il
un
reste
des.
en F1.
Et maintenant, quand il a dit qu'il allait peut-être se barrer, tout le monde était en train de pleurer. C'est fou quand même.
C'est dingue. Spielberg, c'est quand même un circuit qui lui réussit. Est-ce qu'on peut se dire que c'est quasiment, pour cette saison en tout cas, maintenant ou jamais?
Non, enfin moi je trouve pas. C'est pas maintenant ou jamais. Red Bull construit sa saison, ils apportent les améliorations. Si c'est pas maintenant, ce sera probablement plus tard. Par contre, c'est sûr que là, va aussi y avoir des améliorations moteurs qui vont arriver bientôt chez les autres écuries, donc il va falloir faire attention. Mais je pense pas qu'il soit vraiment pressé. Je pense que Verstappen est pressé de voir ce que Red Bull apporte. Pour lui redonner confiance dans l'idée qu'on travaille pour lui et qu'on travaille dans l'idée de remettre la voiture dans le bon chemin pour la performance.
Un mot d'Isaac Hadjar, messieurs, il va disputer son premier Grand Prix d'Autriche sous les couleurs de Red Bull. Il a d'ailleurs déclaré que c'était un week-end qu'il attendait, je cite, avec impatience. Au-delà de ça, il réalise un début de saison extrêmement convaincant, même si un peu régulier selon les Grands Prix, évidemment. Est-ce qu'Isaac Hadjar a déjà mis tout le monde d'accord sur son rôle et son statut de numéro 2 chez Red Bull, Nico?
Oui, moi c'est un grand oui, tu vois, j'étais en train de regarder, il a déjà 3 fois plus de points que les coéquipiers Red Bull après 8 manches l'an dernier, donc Lawson et Tsunoda, avec une voiture qui n'est pas dominante, parce qu'en fait, si tu te focuses juste sur le nombre de points, la Red Bull n'est pas du tout la même que l'an dernier, mais dans les deux cas, t'as pas une voiture qui est ultra dominante, ça veut dire qu'il a su aller chercher des points importants. Il n'est que, je dis bien que, à 21 points de Max Verstappen. Ça veut dire qu'il a réussi à s'acclimater aussi à son environnement Red Bull. Que sur les 3 dernières courses, il est ultra performant et il prend des gros points. Que l'écart avec Verstappen en qualif, et on l'a dit plein de fois, nous, dans le paddock, Jean-Luc en a parlé, il avait peur de l'écart qu'il y avait entre les deux, notamment à Miami, où il s'est dit attention, là, Verstappen est en train de revenir à Verstappen, est-ce qu'il ne va pas écraser Hadjar? Ben, au final, Hadjar, il a toujours su se relever. Qu'il fait une saison à l'image de ce qu'on a vu l'an dernier, c'est-à-dire que ça lui arrive de faire des boulettes, un manque d'expérience, de jeter la voiture dans le mur comme c'est le cas à Monaco sur la première séance d'essai libre. Mais dès qu'il a l'opportunité de remettre les pendules à l'heure ou de lever les doutes, que ce soit sur le prochain roulage ou en course, il le fait. Donc en fait, il laisse jamais la place aux gens de douter. Pour moi, il est parfaitement dans son rôle. C'est un numéro 2 qui prend des points. C'est un numéro 2 qui essaye de s'accrocher au meilleur pilote du plateau, Max Verstappen, et qui le fait bien. Donc voilà, faut qu'il continue son évolution. Il faut pas s'enflammer. Et lui, je suis à peu près sûr aussi que quand il aura une opportunité d'aller monter sur la boîte, voire d'aller chercher quelque chose de grand, il sera là. Il répondra présent. Donc pour l'instant, je vois pas de. Faut pas s'enflammer. Mais je vois pas trop de fausses notes. Il fait, voilà, c'est un pilote qui débute sa deuxième saison de Formule 1, qui peut faire des erreurs, qui continuera à en faire, mais je le trouve très bon, moi.
Surtout qu'on sait à quel point ce rôle de numéro 2 derrière Max Verstappen est dur. Il y en a énormément qui s'y sont cassés les dents. Tristan, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer? Est-ce que c'est uniquement une question de tempérament, de caractère ou de jeunesse? Ou est-ce qu'il y a plus que ça pour lui?
Avant toute chose, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est quand même remettre en contexte, parce que dans l'idée, c'est favorable à Isaac de bien évidemment comparer aux autres. C'est pas la même situation chez Red Bull. Comparer par rapport aux anciens coéquipiers de Max Verstappen, pour moi, j'ai un peu de mal dans le sens où c'est absolument pas la même situation.
C'est pas Christian Horner,
c'est
t'as
pas
raison,
Christian
mais.
Horner. Il y a quelqu'un pour le mettre en confiance. Cependant, en qualif, c'est vraiment incroyable ce qu'il arrive à faire. Au niveau des écarts, c'est très fort. Pendant que Nico expliquait vraiment bien la saison d'Isaac Hadjar, je me disais, on ne les a pas encore vus en piste se rencontrer réellement Max et Isaac. Ça, j'attends aussi un petit peu de voir comment ça pourrait se passer, voir si il y aurait un peu de retenue de la part de Isaac ou, bon, à mon avis, le connaissant, il n'y aura pas de retenue, mais voilà. Non, je dirais pas qu'il y a encore de gros faux pas de sa part. C'est dommage pour le podium à Monaco qui lui a été retiré après au final par la FIA, mais je dirais pas non plus que pour l'instant il a dépassé mes attentes chez Red Bull, mais il n'a clairement pas été en dessous de la limite que beaucoup pouvaient se mettre en se disant oh là là, il va se faire dévorer par Max Verstappen, un nouveau qui va se faire dévorer par Max Verstappen. Pas du tout, il a vraiment été à la hauteur. Après, oui, moi je reste marqué quand même par son accident à Miami où c'est vraiment une bête erreur qui est quand même un tout petit peu gênante dans la deuxième saison de Formule 1. C'est pas non plus les premiers Grands Prix, par exemple comme son premier Grand Prix en Australie avec Racing Bulls. Bon là, bien évidemment on l'excuse sous la pluie, enfin là ça aurait été vraiment malhonnête de venir lui cracher dessus. Là j'ai eu un peu plus de mal, mais il a toujours su rebondir, il a toujours su remettre les pendules à l'heure, comme le disait Nico. Donc franchement c'est de l'expérience qui lui manque, et après surtout je pense mettre sa patte dans le développement, parce qu'il y a eu plusieurs Grands Prix où il a expliqué clairement qu'il sentait que l'équipe ne l'écoutait pas, ou en tout cas écoutait beaucoup plus Max que lui sur les réglages, et où on sentait que ça l'énervait un petit peu. Je me souviens plus exactement quel Grand Prix, mais il arrive à un moment au micro de Canal+, heureusement qu'il est un peu médiatraîné, parce que sinon on a l'impression qu'il va toute la chaîne de commandement Red Bull va en prendre pour son compte. Voilà, mais il faudrait qu'il arrive justement à montrer que, surtout ce que Lewis Hamilton a réussi à faire, j'ai l'impression, chez Ferrari, aux ingénieurs, aux mécaniciens, etc., que c'est pas justement les autres coéquipiers de Max Verstappen. C'est un pilote qui a du caractère, qui a du volant, qui sait mettre l'aiguille au bon endroit quand il le faut, et qu'ils peuvent l'écouter. Et il peut donner des retours qui sont intéressants. Donc ça, je pense que c'est le seul point qu'il peut, à l'heure actuelle, vraiment améliorer. Sinon, il n'y a pas vraiment énormément de choses à redire sur sa saison pour l'instant.
Mais tu as raison. Mais ça, Tristan, moi, je pense que c'est ce qui va faire ça. C'est ce qui va faire sa force et qui peut à la fois coûter sa perte, ce caractère et cette envie de manger Verstappen. Parce qu'en soi, quand tu es dans ta deuxième année de Formule 1, que ton équipe ou que tes ingés, ils préfèrent écouter le quadruple champion du monde sur tout ce qui est développement. Ah, ça a loin, c'est loin d'être infamant. Donc, c'est une frustration à digérer, ok, c'est une frustration à emmagasiner, il faut grandir avec ça. Je pense que des injustices chez Red Bull, des injustices entre guillemets, en tout cas, le fait qu'il n'ait pas le même statut que Verstappen, il va continuer à le vivre, et ça va peut-être être dur pour lui, mais il faut vraiment qu'il s'en serve. Il ne faut pas que ça devienne cette frustration nocive, tu vois, qui lui fasse faire des conneries sur la piste. Moi, c'est le seul point d'interrogation que j'ai avec lui, c'est pas vouloir brûler les ailes un petit peu trop vite, des fois, dans certaines situations. Mais je pense qu'il a les épaules, je pense qu'il a le mental, voilà. Donc,
je pense qu'il a le caractère qui va pour ça, justement, chose que peut-être n'avait pas Pierre Gasly, ou en tout cas de ce que je me souviens de 2019, j'avais vraiment l'impression que Pierre Gasly, était dès le début très énervé de ne pas pouvoir mettre en place les réglages et ce qu'il voulait dans sa voiture. Et c'est ce qui l'a mené en fait à un peu se monter la tête en épingle, à se dire tout le monde est contre moi, rien ne va, rien ne marche. Et alors ensuite, vous rentrez dans un cercle. Dès que vous n'avez pas la confiance en Formule 1, de toute façon, ça se voit directement dans vos résultats en piste. Mais je pense que justement, Isaac a ce caractère à la fois qui peut lui permettre de s'élever et de montrer que c'est un pilote différent, il a besoin de choses différentes. Mais en plus de fédérer des gens derrière lui, parce qu'il est quand même attachant ce garçon, fédérer des gens derrière...
Tu sens qu'il a cette âme de leadership.
Il a cette âme de leadership. C'est un garçon qui, un peu comme à l'époque de Max Verstappen, a des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'il prend le volant. Enfin, on a l'impression que vraiment, il vit son rêve. Quand on le voit prendre des selfies avec Lewis Hamilton, moi, je trouve ça absolument magnifique à chaque fois. Donc, en fait, il a cette envie, il a ce truc que... je pense qu'il peut, au niveau des ingénieurs Red Bull, vraiment leur dire écoutez-moi aussi, parce que l'avenir il se construit avec moi et pas que avec Max.
Ouais, Ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord.
Excellent. Et bah, parlons de son idole, justement, Lewis Hamilton. Messieurs, il a totalement relancé tous les pronostics après sa victoire à Barcelone, évidemment. Il y a eu énormément d'emballements autour de tout ça. On a entendu des « il va être champion du monde de toutes parts ». Mais il y en a un qui a tenu à éteindre l'incendie, évidemment, c'est Fred Vasseur. Je vous lis sa décla. « Il y a probablement 2 semaines, j'avais les mêmes commentaires selon lesquels tout était un désastre. Et maintenant, on nous parle de championnat du monde. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que vous faites un bon week-end que vous allez écraser tout le monde à chaque course. Restons calmes à ce sujet. » Pour le coup, on parle souvent de la com des différents boss et des différents team managers, mais je le trouve assez juste dans sa communication pour le coup, Fred Vasseur. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette sortie-là, une semaine après la victoire de Lewis Hamilton à Barcelone?
Bah, il a tout dit, hein. Non, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est qu'en 15 jours, tu passes... Alors, ouais, je suis un peu dur en 15 jours, mais en 2 mois, ça, tu passes même, ouais, d'un... Un Hamilton qui était bon à rien, le plus gros fiasco, le transfert du siècle qui vire à la calamité, à la catastrophe, il a plus les épaules, il est bouilli pour la Formule 1. Ah, ça y est, il a signé de 2e place, il a réussi à gagner en Catalogne, il va être champion du monde, il va aller chercher le 8e. Il n'y a pas de pondération. Ce qu'on voit, c'est que Hamilton a retrouvé de la confiance. Ce qu'on voit, c'est qu'il a réussi à amener du développement, ses développements à lui, et comme le disait Tristan, à faire changer des choses chez Ferrari, que Ferrari va dans son sens, que ça marche sur la piste, c'est parfait. Maintenant, la saison, elle est encore extrêmement longue. Est-ce que le Grand Prix de Catalogne va être un révélateur sur toute la fin de saison? J'en suis pas sûr, même si ça reste un marqueur important, parce qu'on sait que c'est un circuit assez révélateur et que, en tout cas, ça prouve que Ferrari a bien progressé, ça c'est une certitude. Est-ce que ça va te permettre de jouer la victoire tous les week-ends? J'en suis pas encore sûr. Donc tranquillou, ce qui est sûr, c'est qu'il est revenu dans la lutte. Ce qui est sûr, c'est qu'on reparle un petit peu de lui, qu'il peut mettre la pression un peu sur les deux Mercedes, que son retour va aussi mettre la pression chez les stratèges de Mercedes en se disant bah, « on n'est plus tout seul avec Russell et Antonelli, va falloir faire gaffe, et pas faire gaffe à n'importe qui, faire gaffe à un septuple champion du monde ». Donc ça, ça peut changer des choses. Maintenant, de là à dire que c'est un prétendant pour le titre, ouais, moi je suis team Fred Vasseur.
Team Fred Vasseur, très bien. Ouais. Donc un peu de calme autour de tout ça. Est-ce que avec le recul, Tristan, est-ce qu'on a eu entre guillemets raison de s'enflammer pour Lewis Hamilton, ou est-ce que est-ce qu'il peut réellement le faire, ou est-ce que, comme dit Nico, il faut calmer le jeu et c'est une marche atteinte, mais on est loin de la finalité.
C'est une marche, mais je ne vois pas pourquoi Lewis Hamilton aujourd'hui ne serait pas considéré comme un candidat au titre. Je suis absolument fan de la déclaration de Fred Vasseur qui met un immense tacle aux médias italiens, mais vraiment un immense tacle, parce qu'il faut regarder les papiers qui sont sortis sur lui et Lewis Hamilton l'année dernière. Hein. C'est quand Lewis Hamilton vous dit « on est revenu de loin » et qu'il le dit à tous les mécaniciens qui l'embrassent à la fin de la course, il le pense. Hein. Ils se sont pris des trucs en Italie, mais c'est d'une violence inouïe, enfin, des choses qu'on voit rarement. Donc là, Fred Vasseur, déjà, je suis très heureux pour lui et pour Lewis, parce que c'est quelque chose qu'il méritait, et c'est à la hauteur de la tête pensante que Fred Vasseur est. Et ensuite, ça, c'est de la com' typique, hein, c'est du Toto Wolff tout craché, c'est du langage Formule 1 qu'on adore et qu'on aime décrypter. À mon sens, Lewis Hamilton est un candidat au titre. Il a raison dans le fait de dire qu'il ne faut pas s'enflammer, parce qu'il faut confirmer toujours ses résultats. Souvent, Ferrari a gagné 1 ou 2 Grands Prix dans la saison. Moi, je pense à 2024 avec Leclerc. Ça n'a pas fait de lui un candidat au titre, même si ce n'était pas les mêmes situations.
Exactement.
Y a toujours une ferveur exceptionnelle quand on gagne chez Ferrari. C'est normal. Et c'est bien aussi de remettre les choses à plat. Après... je pense qu'avec cette déclaration, Fred Vasseur, il essaye aussi de dire bah, « il y a aussi Charles Leclerc dans mon écurie, j'ai 2 pilotes, je ne veux pas faire de préférence, et si je commence à dire « ah bah oui, Lewis est candidat au titre » et que je ne dis pas que Charles l'est, bah, ça veut dire qu'en gros, en piste, il va se passer des choses ». Donc la déclaration, elle est censée, et pour moi, Lewis est clairement un candidat au titre parce que Lewis Hamilton, déjà, première chose. Deuxième chose, parce que Ferrari... montre des progrès, et des vrais progrès, hein. Ils ne montrent pas juste que sur un week-end ils sont à l'aise, ils montent du rythme dans les séances, dans la gestion des pneus, ils s'améliorent, etc. Ils vont avoir les améliorations moteurs, donc je pense que c'est de la préparation médiatique avant peut-être quelques victoires ou au moins des gros résultats. Et puis surtout face à, bon, je ne vois pas George Russell revenir réellement sur Kimi Antonelli, sauf défaillance, et vu que le petit est assez jeune et peut-être pas encore mentalement prêt, Je pense que ça va nous donner une saison assez intéressante.
Nico, on connaît en plus l'expérience de Fred Vasseur. Est-ce qu'il y a aussi au fond de cette déclaration de Fred Vasseur un petit peu de, comme le disait Tristan, ils ont eu énormément de retours négatifs l'année dernière. Est-ce qu'il y a un petit peu de protection envers Lewis Hamilton, envers Charles Leclerc, tu l'as dit Tristan, et puis surtout, est-ce qu'il ne prépare pas un petit peu le terrain en cas finalement d'échec, parce qu'on le sait et on l'a répété maintes et maintes fois, tout peut changer d'un Grand Prix à l'autre.
Non, mais je pense que Fred Vasseur, on a bien compris sa personnalité. C'est quelqu'un qui est très calme, pondéré. Même quand il gagne, c'est pas le genre de mec à en faire trop. Donc, tu t'attends pas à ce qu'il fasse une déclaration enflammade en mode ouais, ça y est, on a une bonne voiture, on va aller la chercher, on va se battre pour aller chercher le titre. Sachant qu'il sait, en plus, et Tristan a totalement raison, que Charles Leclerc est au fond du fétou là. Là, mon Charles Leclerc, là, il est, tu vois, il a une botte de plomb, il est au fond de l'océan. Donc, il va falloir essayer de lui enlever la botte de plomb pour qu'il remonte un peu à la surface en Autriche ce week-end. Ça va être aussi un des enjeux de la Scuderia. Donc voilà, il est obligé de faire de la com. Là où je trouve que c'est très bien joué, c'est qu'il y a en effet un vrai message qui est adressé aux médias italiens en mode « Les gars, n'oubliez pas ce que vous nous avez mis dans la truffe l'an dernier. Hein. On est quand même capable de faire ça. Lewis Hamilton, c'est ce mec-là. Le choix qu'on a fait, ça nous a permis d'en arriver là. » Donc voilà. Et par contre, après, tranquille, on va voir comment ça évolue. Laissez-nous bosser. Ils vont avoir des évolutions là, qui arrivent, je crois, dès ce week-end en plus sur leur moteur. Ouais. Ça ne sera pas la seule évolution sur leur moteur, puisqu'il y en a déjà une autre qui est en cours de livraison. Donc ils sont en train de bosser très fort. C'est en train de combler le retard. Moi, quand je dis que je ne vois pas Lewis Hamilton matcher pour le titre, bien sûr que c'est un candidat. Il est à 41 points de Kimi Antonelli. Et quand on voit l'expérience qu'a Lewis Hamilton en mode chasseur, ça va être compliqué de le bouger. Je dis juste qu'il faut, moi j'attends de voir en fait là sur l'Autriche, Silverstone, voir comment se comporte la Scuderia et voir comment Mercedes arrive à aligner les trucs, s'il y a encore des problèmes de fiabilité. Voilà, je pense que ça va être un peu révélateur, mais ça va être super intéressant. En tout cas, on a tous envie de voir Lewis Hamilton se bagarrer pour le titre. Ça peut être monstrueux, et j'ai très envie de voir Charles Leclerc aussi relever la tête et peut-être se chatouiller avec Lewis Hamilton, parce qu'il y a ce statut aussi de numéro 1 chez Ferrari qui va entrer en jeu. Et même si Charles Leclerc est ultra corporate, je ne suis pas sûr qu'il se laisse marcher sur les roues, comme on dit. Donc, tu vois, ça va être super intéressant aussi.
Tu n'as pas confiance en la Scuderia, en fait, Nico ? Lewis, si, tu as confiance, mais pas la Scuderia.
Non, mais en fait, tu sais pourquoi ? Mais c'est peut-être mon côté un peu plus vieux que toi qui parle.
C'est-à-dire que, en fait, j'ai... Pardon, excuse-nous, Nico.
Non, pas l'expérience. Non, mais c'est pas pour faire le vieux daron. Mais c'est qu'en fait... Non, en plus, j'ai l'impression, tu vois, j'ai que 35 ans. Mais en fait, j'ai tellement eu d'espoir avec cette écurie. Il y a tellement eu des moments où tu t'es dit « Putain, là, ça peut le faire. » Ou « Là, il se passe un truc. » Ou « Là, ça progresse. Ça se développe. Les deux pilotes sont bien. Lui, tu sens qu'il peut faire un truc. » Et tu as toujours, au final, malheureusement, été déçu. Et cet amour-là qu'on a tous pour la Scuderia et cette déception-là, je n'ai pas forcément envie de la revivre. Donc là, c'est peut-être très égoïste et très perso.
Donc tu te prépares comme Fred Vasseur, en fait.
Ouais, c'est ça.
Exactement,
je me prépare comme Fred Vasseur. Je me dis, s'ils vont en chercher 3-4 dans l'année, c'est cool, on se sera fait kiffer. Si Hamilton, il va chercher des victoires, très bien. Mais tranquillou pour le titre. Laissez-moi vivre mon truc et ma saison peinard. Et puis s'il y a 3 courses de la fin, on se retrouve avec une Ferrari qui peut gagner. Là, ça va être l'enflammade totale et ça va être magnifique.
Messieurs, on va suivre ça évidemment dans le paddock. On va vous en reparler de la Scuderia Ferrari. On va refermer cette page Lewis Hamilton et Ferrari. Et puis messieurs, moi je suis très inquiet. On est tous très inquiets.
RMC, avis de recherche.
La communauté de la Formule 1 est sans nouvelles d'un certain Oscar Piastri. Signalement, pilote australien, 25 ans, 1m78, combinaison orange, logo McLaren sur le poitrail. Longtemps en tête du championnat de Formule 1, passé tout près du titre mondial en 2025, aperçu pour la dernière fois en lutte régulière avec un certain Lando Norris. Depuis, les performances se sont faites plus discrètes, le rythme plus irrégulier, les écarts se sont creusés. Si jamais vous avez aperçu le véritable Oscar Piastri autour du Red Bull Ring ou ailleurs, merci d'en informer immédiatement le paddock RMC. Toute information susceptible d'aider à retrouver sa forme de l'an dernier sera étudiée avec la plus grande attention. Plus sérieusement, messieurs, il lui arrive quoi, Oscar Piastri ?
Attends, Nico, j'applaudis. Attends, c'est la chronique. On n'avait jamais bossé une chronique comme ça dans le paddock RMC.
Je me suis chauffé.
Ouais, c'est magnifique.
L'avantage, c'est que ça peut marcher pour beaucoup de pilotes désormais.
Oui.
Je peux vous dire que je vais la faire à tous les warm-up, on va lancer un avis de recherche.
On remercie Daniel Torres quand même en régie. Là. Il Évidemment. Nous a fait un truc. Daniel, à mon avis, là, il a fait sa journée de boulot. Là. Tout ce qu'il a mis en place sur cette chronique.
Le pauvre, il a pris un tir alors qu'il y est pour rien. Le pauvre Daniel Torres, que je remercie pour cet excellent jingle avis de recherche. Plus sérieusement, Nico, il lui arrive quoi, Oscar Piastri ?
Je sais pas, et même lui ne le sait pas. C'est bon, après, c'est est-ce que c'est inquiétant? En tout cas, c'est souvent la com des pilotes de Formule 1. Mais même lui, après la Catalogne, il a dit: j'ai du mal à comprendre là l'écart de niveau qu'il y a entre les deux monoplaces. Pourquoi je suis aussi loin de Lando Norris? Moi, j'ai vu une stat qu'on m'a envoyée sur Twitter. C'est un média qui a sorti ça. Les duels entre Norris et Piastri avec plus de 20 secondes d'écart entre les deux pilotes. 19 à 3 pour Lando Norris depuis qu'Oscar Piastri est arrivé en Formule 1. Ça m'a paru franchement énorme dans les head-to-head, dans les face-à-face là. Il n'est pas largué au championnat du monde, loin de là, Oscar Piastri. Tu vois, il a 73 points, non, 68, pardon, et Lando
68, ouais.
Norris en a 73. Donc il a 5 points de son coéquipier. Mais c'est vrai que depuis 2-3 courses, tu as des signaux qui sont moyennement bons. Et j'ai du mal à retrouver, moi, personnellement, le Piastri du début de saison dernière. Et tu vois, et même dans le mental, dans tout ce qu'on disait, nous, dans le paddock RMC, sur ce côté killer, le mec qui a envie de grailler tout le monde, tu sens qu'il a pris peut-être un coup sur le casque sur cette fin de saison-là avec McLaren. Tu sens que peut-être que la politique de favoriser Lando Norris, ou en tout cas ce qu'il a pu ressentir, bah, ça l'a peut-être vraiment touché. Je sais pas, je sens qu'il a moins la dalle. Et ça se ressent, ça se ressent. Et là, il a du mal à trouver la clé pour recoller sur Norris, en termes de perf pur.
C'est inquiétant, Tristan. Moi, j'ai peur que McLaren ait détruit ses pilotes l'année dernière. Il faudrait lancer un procès à Zak Brown plutôt qu'un avis de recherche. Et là,
Je ferai ça au prochain épisode, je le
vais
note.
Faire plaisir à Jean-Luc Roy avec cette phrase. Alors, je vais défendre ceux qui regardent uniquement les matchs de football et les courses de Formule 1 avec des statistiques. Ils dominent Lando Norris en qualification et en course. 4-3 pour Oscar Piastri en qualif et 4-3 pour Oscar Piastri en course.
C'est vrai.
Il n'est qu'à 5 points de Lando Norris au classement du championnat du monde, mais c'est vrai qu'il marque moins les esprits. Ça, on est d'accord. Je pense qu'il y a eu un coup mental clair l'année dernière. Après, c'est un petit peu comme Max Verstappen. Je m'inquiète pas vraiment parce que il y a forcément des hauts et des bas dans des carrières de pilote, dans des saisons. McLaren est à la fois aux avant-postes et à la fois un peu englué sur la fin des avant-postes, justement. C'est difficile de savoir réellement à chaque fois où ils sont. Il y a des week-ends où ils sont absolument exceptionnels et il y en a d'autres où on a l'impression que bah, ils sont quatrième force du plateau. Donc c'est assez dur de savoir ça. Après, je pense qu'on est dans une période aussi chez McLaren on n'est pas sur un pic et on n'est pas sur une descente catastrophique. On est un peu sur un flou, un mou. On est dans le ventre mou de chez McLaren. Il ne se passe pas grand-chose. Les pilotes ne font pas de vagues. Enfin, on a l'impression qu'on a perdu l'équipe McLaren presque. Mais je ne m'inquiète pas vraiment parce que c'est Oscar Piastri, parce qu'il a démontré dans ses carrières juniors que c'était un excellent pilote. Qui va apprendre forcément de cette saison 2025. On apprend toujours, enfin c'est Niki Lauda qui disait ça, hein. Merci à tous ceux qui m'ont fait perdre parce que c'est comme ça que j'ai appris. Merci à tous les perdants. Donc voilà, je ne suis vraiment pas inquiet pour Oscar Piastri. Par contre, je suis plus inquiet pour McLaren de façon générale et de façon globale dans la façon dont l'équipe est gérée. J'ai du mal à savoir ce que... Enfin, pareil, apparemment, il n'y a plus de papaya roule cette année. Donc voilà, ça joue pas le championnat, donc il y a plus de papaya roule. Enfin bon, moi je suis perdu. Ils sont 5 et 6 comme Nicolas dit. Donc à voir si des améliorations. Et je crois qu'ils ramènent pas mal d'améliorations ce week-end aussi. Hein. Il faudra surveiller McLaren. Mais pour l'instant ils subissent aussi la loi de l'équipe cliente. Hein. C'est les premières années avec le nouveau bloc moteur Mercedes. Et bah il va falloir faire avec. Et puis il faudra ronger son frein et attendre que Mercedes envoie le manuel avec la page 78 pas arrachée pour être sûr de tout bien comprendre et tout mettre dans l'ordre.
Nico, quelque chose à rajouter sur McLaren?
De voir, ben, en fait, j'attends de voir ce qui va se passer concernant Piastri sur son avenir. Je crois qu'il est en fin de contrat en 2028. Enfin, il avait signé un contrat pluriannuel. Donc, en 2025, il avait prolongé. Donc, d'après ce qui se dit, ça s'arrêterait en 2028. Je pense qu'il va avoir besoin de changer d'air. La gestion de l'année dernière, ça l'a clairement impacté. Ce que je disais, tu sens que le mec, il a pris un coup sur la truffe, quoi. Et je sais pas, même dans son body language, ce que je te disais, moi je l'ai encore vu à Monaco, où tu vois, j'ai pas mal traîné à côté de l'Ospi McLaren, j'essaie de voir des trucs. Tu le sens un peu renfermé, ça a jamais été le mec le plus exubérant du monde, hein, Oscar Piastri. Attention, hein, c'est pas le mec que tu vas voir en one man show. Mais malgré tout, tu sentais qu'il était sûr de sa force au début de saison dernière. Et là, il l'est beaucoup moins dans tout ce qu'il dégage. Donc en effet, il n'est pas à la ramasse. En fait, ce qui est assez criant, c'est que Tristan a donné les stats. Il est loin d'être à la ramasse, mais malgré tout, la dynamique. Ouais. Nous fait dire, et les dernières courses nous font dire que tu vois, il y a une petite alerte enlèvement et qu'il est en train de se faire dépasser par son coéquipier. Donc, le jour où ça va exploser aussi comptablement, si ça explose comptablement, attention, ça peut vraiment marquer les esprits. Et c'est un pilote qui vaut tellement mieux en fait. Donc, moi j'ai envie de le revoir se bagarrer.
Ah oui, donnez-lui une vraie monoplace parce que il mérite un championnat du monde après le début de saison qu'il nous fait l'année dernière, franchement.
T'as envie de le voir aux avant-postes, là, se bagarrer pour un podium, aller se friter avec Antonelli, avec Hamilton, avec un Russell, avec un Leclerc, voir un Verstappen quand il a la voiture. En fait, j'ai envie d'avoir cette bagarre à 5-6 mecs. On a un tel niveau en termes de densité de pilotes, là, dans les top teams, que t'as envie de les voir se taper, hein, tous les week-ends. Donc et là, ils n'ont pas le matos pour le faire.
Un petit échange Russell-Piastri d'écurie ?
Ouais, je prends, moi.
Ça pourrait être drôle.
Bah écoutez, on espère que cet avis de recherche va fonctionner, messieurs, et qu'on va retrouver
bravo, Kylian,
le grand Oscar.
Quelle chronique. Non,
mais merci.
Quelle rubrique.
C'est tout le plaisir est pour moi.
Il aurait fallu le faire chez Charles Leclerc, ou en tout cas pour le prochain GP si ça continue. Parce
ouais. Mais Charles Leclerc, on va faire un fait entrer l'accusé peut-être, parce que là il se passe des choses.
Vous en faites pas, on a une liste longue comme le bras où on peut faire des avis de recherche, des procès, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, en parlant de procès, je pense qu'on va pouvoir en faire un tout de suite. Je voulais vous faire réagir à une petite info qui est tombée au moment où on enregistre évidemment ce warm-up du Grand Prix d'Autriche. On a appris que la FIA a adopté une certaine proposition visant à mettre fin aux limites de mandat pour Mohamed Ben Sulayem. D'habitude, enfin avant cette proposition en tout cas, il avait le droit à 3 mandats de 4 ans, donc soit 12 ans au total. Cette proposition donc met fin à cette limite. Mohamed Ben Sulayem, qui a 64 ans, pourra potentiellement prolonger encore et encore, voire potentiellement à l'infini, si toutefois il fait tomber une restriction d'âge qui existe encore de 70 ans. Nul doute qu'elle finira par tomber au vu de ce que réussit à faire Mohamed Ben Sulayem avec cette FIA. Qu'est-ce que ça dit de la FIA et quelle est votre réaction à cette information-là, Nico ?
Moi, ça me fait rigoler parce qu'on se parle. Est-ce que ça nous étonne ?
Ah non.
Je te rappelle quand même que c'est un mec qui a été le seul, soi-disant, et unique candidat à sa propre succession. Il n'y a personne qui veut y aller.
Du coup, il sera, candidat à sa réélection à vie, en fait, maintenant.
Donc, mais voilà, non, mais c'est
Est-ce qu'il y aura des élections, surtout ?
Exactement, tu t'orientes vers un truc où ça va être le dictateur de la FIA. Le dictateur, après, les mots, ils sont très forts, bien évidemment.
Oui, mais bon,
ça va être un organisme totalitaire avec un président surpuissant qui va faire ses réformes avec ses équipes, qui va essayer de rester connecté avec le monde de la Formule 1 et les pilotes. Mais on sait qu'il y a déjà eu énormément de tensions. Moi, ça ne me surprend absolument pas. C'était même attendu, j'ai envie de te dire. Ce qui est un peu hypocrite, c'est de voir comment la FIA essaye de se justifier pour trouver des raisons de valider ça. Il n'y en a pas, en fait. Le mec, il est surpuissant. Il est surpuissant également financièrement. Voilà, c'est un système antidémocratique. On le sait. Et ça va continuer. Comme ça, c'est mon Jean-Luc Roy qui va être content.
Alors là, c'est ce que j'allais dire. Il y en a un autre qui ne doit pas être étonné et qui doit rire jeune. Ça doit être notre bon vieux Jean-Luc Roy.
Quelle tristesse après tout ce que Jean Todt a construit avec cette FIA. Enfin, quand on sait tout ce qui a été mis en place pour à la fois le sport, mais encore une fois, surtout, merci les gars de l'information, parce que moi j'écris mon mémoire dessus, donc vous m'avez permis de savoir que j'allais devoir bosser ce soir. Mais quand on sait tout ce que Jean Todt a fait pour la sécurité routière, notamment à quel point la FIA joue un rôle important à l'ONU pour faire en sorte que justement, on parle pas que de sport, mais qu'on parle aussi et surtout de sécurité routière, voir cette FIA pris avec des menottes parce que d'après les informations de la BBC, ça va quand même être le prochain objectif, hein, de faire sauter cette limite de 70 ans pour le candidat à la présidence. Quand on sait qu'en 2025, je pense notamment à Laura Villars, la Suissesse, avait pas pu se présenter parce que les statuts de la FIA ont été changés quelques semaines avant de pouvoir présenter les listes, qui obligeaient donc de présenter des représentants de la FIA élus bien évidemment par qui ? par la FIA dans les sept, les six continents représentés par la Fédération internationale de l'automobile pour que effectivement Ben Sulayem puisse uniquement se présenter. Donc voilà, c'est la continuité d'un processus qui a été enclenché depuis depuis quoi 2021. Oui, c'est 2021 l'arrivée de Mohamed Ben Sulayem. Donc voilà, et puis ça creuse encore plus le fossé entre la FIA et la Formule 1.
Ce qui est rigolo quand même, je vous lis le papier de la BBC, mais donc du coup pour cette proposition là de mettre fin à la limitation du nombre de mandats de son président, la proposition a été approuvée à plus de 90% des voix.
Ah, c'est voilà. Un score, donc, un score de.
Ah visiblement il n'y a pas d'opposition.
Visiblement, un score de dictateur.
Voilà, non mais c'est.
Nul doute qu'on en reparlera lundi, en tout cas, Nico, avec Jean-Luc,
bien évidemment.
Qui aimera sans doute en dire un mot. Avant de boucler cet épisode sur le Grand Prix d'Autriche, revenons aux sportifs, à la course. Je vais vous demander vos pronos, messieurs, pour ce Grand Prix d'Autriche. Nico, je commence par toi, tu as commencé à vendre la mèche tout à l'heure. Max Verstappen en 1.
Non mais moi les gars, alors franchement, si vous devez parier sur le Grand Prix, ne m'écoutez pas.
Tu fais tout l'inverse de ce que dit Nico.
Ouais, parce que là je tente un coup, je crois pas trop en ce que je vais dire, mais j'essaie de marquer des points. Non, j'ai dit Verstappen vainqueur à la maison, j'ai mis Lewis Hamilton en 2 et j'ai mis Lando Norris sur le podium en 3.
Ouais, tu dois sans doute être le seul, tu es le seul à avoir mis un pilote non Mercedes. Ouais. Devant, tout à fait. Tristan, ton podium
Charles Leclerc va remporter le Grand Prix, je vous l'annonce. Voilà. Non mais alors, vous rigolez. Non,
alors,
vous rigolez.
Vous rigolez.
Mais, je rigole pas, Tristan.
Mais alors, c'est un truc de Charles Leclerc d'avoir une période dans sa saison, mais absolument abominable. Et le Grand Prix d'Autriche, ça fait partie des circuits où il est vraiment fort. Donc, c'est soit il réussit à gagner. Soit c'est fin de carrière, hein, ça va être terrible, la chute, la descente aux enfers, vraiment. Non, mais voilà, moi je pense que la Ferrari va bien marcher ce week-end, donc, okay. je vois bien Charles Leclerc remporter le Grand Prix, juste devant Kimi Antonelli, qui est sur une forme exceptionnelle, si son moteur le lâche pas, et en troisième position, un Isaac Hadjar qui.
Ce sera un Grand Prix formidable et un débrief exceptionnel.
Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en même temps, Red Bull donne des ailes. Et on roule ce week-end.
Excellent.
Ah, excellent. C'est bien.
Et comme c'est une émission.
Franchement, Tristan, il vient pas souvent.
Je soigne mes sorties.
Il soigne ses sorties, il est excellent.
On va peut-être le réinviter un petit peu plus souvent, le Tristan.
Non, mais attends, si ça passe, on le réinvite lundi direct. Hein, tu viens.
J'espère plus que ça.
Si ça passe, je lui signe le contrat à vie comme Mohamed Ben Sulayem. Ce sera le dictateur du paddock RMC, je te l'annonce. Hein.
J'avoue, il prendra ma place. Je te laisserai ma place, mec.
Comme c'est une émission sérieuse, je vous donne quand même le prono de Jean-Luc Roy. Qui lui ne se mouille pas ou très peu. Kimi Antonelli en 1, Charles Leclerc en 2 et Max Verstappen.
Charles Leclerc en 2 quand même, il se mouille un petit peu.
Oui, mais alors attention parce que notre Jean-Luc il met Leclerc sur le podium depuis le début de la saison.
C'est pas faux, il l'a pas sorti du podium. Ça
il l'a pas sorti du podium une seule fois.
Ça finira par marcher, on espère pour Charles.
Il essaie de conjurer le sort chaque week-end. C'est peut-être lui le chat noir avec Charles.
Faut dire à Jean-Luc d'aller poser un cierge à Saint-Dévote parce qu'à ce niveau-là ça ira plus vite.
Ouais,
merci Nico, merci Tristan.
Allez, ciao les amis.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Évidemment, je vous donne rendez-vous lundi pour débriefer la victoire de Charles Leclerc sur ce Grand Prix d'Autriche. On croise les doigts. Salut à tous.
Le paddock RMC.